Vous écoutez, on lit pour vous.
Corpuscule dense rêve d'une inclusion encore plus grande pour son quart de siècle. Un texte de Léa Villalba paru le 7 août 2025 dans Le Devoir. 25 ans se sont écoulés depuis la création de la première compagnie de danse inclusive au pays, Corpuscule dense. Aujourd'hui, ses co-directeurs artistiques et généraux, Marie-Hélène Bellavance et Georges-Nicolas Tremblay, se réjouissent de l'expansion qu'elle prend et souhaitent se tourner vers l'avenir, qu'ils espèrent prometteur et encore plus inclusif. En 2000, la regrettée France Geoffroy cofonde, avec Isaac Savoie et Martine Lusignan, Corpuscule Danse. Quadriplégique après un accident de plongeon, Madame Geoffroy refuse de tirer un trait sur son rêve de danse et ne trouve aucune occasion qui lui permette d'en faire avec son handicap physique. Ils venaient tous les trois de domaines différents et avaient des parcours, des corporéités et des personnalités très différents. Ensemble, ils souhaitaient vraiment changer les mentalités, réfléchir à l'inclusion, créer des opportunités, rappelle Marie-Hélène Bellavance, co-directrice artistique et générale de la compagnie depuis le décès de Madame Geoffroy. Au départ, la compagnie vise à créer des projets, à élaborer des spectacles, puis rapidement l'enseignement et la médiation se greffent au portrait. Des ajouts qui sont aujourd'hui devenus essentiels à Corpuscule Danse. L'enseignement a vraiment ouvert ses ailes ces dernières années. La demande est là, on ouvre de plus en plus de cours et on a élargi notre offre de services pour répondre aux besoins, dit Georges-Nicolas Tremblay, co-directeur artistique et général de la compagnie depuis l'an dernier, qui s'en réjouit. Ainsi, pour souligner son 25e anniversaire, la compagnie a lancé en juin dernier une campagne de sociofinancement. Une manière de soutenir sa pérennité, notamment pour son volet enseignement. La réalité, c'est que la danse inclusive, ça coûte plus cher. On enseigne souvent à plusieurs, car la diversité des corps et des gens devant nous requiert parfois des besoins spécifiques. On a des personnes pour co-enseigner, accompagner, et parfois des interprètes LSQ, langue des signes québécoise, pour les personnes sourdes ou malentendantes, explique M. Tremblay. Ce n'est pas non plus imaginable d'avoir des classes de 20 ou 30 étudiants. On doit maintenir de petits groupes pour des attentions plus ciblées, pour accompagner chaque individu. Enfin, les studios de danse sont peu accessibles, donc il faut parfois payer plus cher pour avoir accès à un espace qui permet à nos étudiants de venir. On ne peut pas mettre ce poids financier sur les familles, qui ont parfois beaucoup à dépenser pour leur enfant en situation de handicap. Désireuse de poursuivre sa mission de transmission, Corpuscule Danse rêve d'un jour pouvoir proposer une formation professionnelle reconnue pour les interprètes en danse. Quand ce qu'on fait n'est pas reconnu, on ne se sent pas légitime en tant qu'artiste. On met toujours l'accent sur le parcours professionnel et la formation, mais ce n'est pas accessible à tout le monde, déplore Madame Bellavance, elle-même amputée des deux pieds. Et aujourd'hui, quelle place pour le handicap sur nos scènes? Il y a moins de gêne maintenant. Les artistes en situation de handicap s'affirment plus. La population a reconnu la valeur de leur travail en même temps qu'ils se sont eux-mêmes découverts et ont défendu leur pratique, répond Marie-Hélène Bellavance à cette question. Pour Georges-Nicolas Tremblay, c'est la reconnaissance qui a fait un grand chemin depuis 25 ans. On reconnaît désormais la qualité professionnelle qui peut émerger de ces corps. Aujourd'hui, on sait regarder une œuvre artistique avec différents types de corps. Ce n'est pas atteint à 100%, mais c'est en forte progression, ajoute-t-il. D'autres compagnies qui travaillent avec des personnes de la neurodiversité ou en situation de handicap ont aussi vu le jour, comme Mae Gwen et les Orteils, ou encore Joe Jack et John. Les deux artistes s'entendent cependant pour dire que la diversité reste peu présente sur les scènes actuelles. Ils estiment qu'un travail politique doit continuer à être fait, mais pas seulement. Ça prendrait la déconstruction des normes de la danse. On a encore des habitudes très ancrées sur la façon de danser à cause du formalisme et de l'académisme de certaines formes, comme le ballet, où il faut produire une image ou une action précise, explique M. Tremblay. Mais la danse professionnelle ne devrait pas être que ça. Pour nous, la danse, c'est la capacité fine à travailler avec les sensations de son corps et à les déployer dans une œuvre. La danse inclusive permet à tout le monde de danser, de chercher le dépassement personnel de son corps. Mais c'est très difficile et long de changer les mentalités. Reconnu et soutenu par les trois ordres de gouvernement depuis seulement quelques années, la compagnie a pris de l'ampleur et espère continuer sur cette voie. Dans la prochaine année, Corpuscule Danse préparera deux nouvelles créations. Son premier spectacle jeune public, « Quand tu me regardes », poursuit cette tournée entamée fin 2023. La compagnie sera aussi présente à Séoul pour présenter sa création « Se fondre » au Festival de danse inclusive KIADA le 15 août prochain, et elle se prépare pour la célébration de ses 25 ans, qui aura lieu en décembre prochain au théâtre Espace Libre. Quand on leur demande ce qu'ils souhaitent pour la compagnie pour les 25 prochaines années, les deux co-directeurs artistiques et généraux s'entendent sur la pérennisation de Corpuscule Danse. On aimerait qu'elle devienne un incontournable, qu'elle fasse entièrement partie du paysage montréalais, car elle offre quelque chose d'unique. On aimerait aussi continuer à rayonner ici et ailleurs et élargir notre bassin d'artistes, lance M. Tremblay. Quant à Mme Bellavance, son souhait s'inscrit au-delà de la compagnie. On a encore besoin de nommer les choses, de parler de handicap, de diversité fonctionnelle. Mais un jour, peut-être dans 25 ans, j'espère qu'on n'en aura plus besoin, conclut-elle. Je souhaite que ce ne soit plus nécessaire de créer des subventions spécifiques, des cases, mais seulement que chacun soit reconnu et qu'on soit alors simplement des danseurs, des êtres humains, des artistes. C'était « Corpuscule Danse rêve d'une inclusion encore plus grande pour son quart de siècle », un texte de Léa Villalba, paru le 7 août 2025 dans Le Devoir.
Les proches aidants coincés dans les limbes du système d'assurance-emploi. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 9 août 2025 dans Le Devoir. Sans revenu depuis 3 mois parce qu'elle doit s'occuper à temps plein de sa fille handicapée, à qui l'on vient de diagnostiquer un cancer, une mère réclame une bonification du programme d'assurance-emploi pour les proches aidants. Un cas qui est loin d'être unique et qui témoigne de la nécessité d'adapter le soutien financier aux proches aidants selon plusieurs organismes. Citation : Je suis découragée. Je veux juste m'occuper de ma fille, me concentrer sur sa maladie, mais j'ai toujours en tête les dettes et les factures qui s'accumulent. Fin de citation. Jusqu'à tout récemment, Liz Henley travaillait à temps plein dans une pharmacie en plus de s'occuper de sa fille Catherine, qui est atteinte de déficience intellectuelle. Catherine, 35 ans, n'est pas autonome et habite avec sa mère dans la maison familiale de Saint-Colomban dans les Laurentides. Lorsque sa fille n'allait pas bien, Mme Henley prenait congé. Mais en janvier, l'équilibre précaire entre le travail et la proche aidante qu'elle réussissait à maintenir s'est soudainement effrité lorsqu'on a diagnostiqué un cancer des ganglions à sa fille. Depuis, les rendez-vous à l'hôpital s'enchaînent. Tests, biopsies, chimiothérapie, suivi, etc. Catherine n'est pas capable de se rendre chez le médecin toute seule ni de comprendre tout ce que celui-ci lui dit. Et son anxiété la rend encore plus vulnérable au quotidien. Dans cette situation, impossible donc pour Mme Henley d'aller travailler. 15 semaines d'indemnité vite passées. Armée d'un billet médical recommandant un arrêt de travail de 9 mois, elle s'est tournée vers le programme fédéral d'assurance-emploi pour les proches aidants, qui prévoit une indemnité lorsque l'état de santé du proche se détériore au point qu'il faille temporairement arrêter de travailler. Mais, à sa grande surprise, on ne lui a offert que 15 semaines à 55 % de son salaire. Si sa fille avait été mineure, elle aurait eu droit au double. Citation. « Je me suis battue avec l'assurance-emploi, c'est épouvantable. » Fin de citation, confie Mme Henley. Citation. « Oui, ma fille a plus de 18 ans d'âge, mais elle n'a pas 18 ans de maturité. Mais eux, ils ne se fient qu'à la date de naissance. » Fin de citation. Par le temps que Catherine commence ses traitements de chimiothérapie en mai, Mme Henley avait déjà épuisé ses prestations. Citation. « J'ai appelé le député fédéral, j'ai rempli tous les papiers. Là, j'attends. Je ne sais pas si la loi va changer, mais il faut que ça change. Pour moi, parce que j'en ai besoin, et pour les prochains qui vont être pris comme moi. Ce n'est pas normal. » Fin de citation. Mme Henley est donc sans revenu depuis le mois de mai. Elle a demandé l'aide de dernier recours, mais on la lui a refusée parce que son conjoint travaille. Sa famille tente de l'aider avec une campagne de sociofinancement GoFundMe, mais le remboursement du prêt hypothécaire est rapidement venu à bout de ses maigres dons. Aujourd'hui, elle paye les factures les plus urgentes avec ses cartes de crédit. Elle garde espoir que l'une des nombreuses démarches qu'elle a entreprises va aboutir de façon positive. Citation. Je me croise les doigts. Et le soir, quand je me couche, je souhaite que le matin, ils aient pris mon dossier et le dépôt ait été fait dans mon compte. J'espère, parce que je n'ai plus rien. Fin de citation. Une situation fréquente. Au comité chômage de Montréal, l'avocat Gabriel Pelletier a été témoin de plusieurs cas comme celui de Mme Henley. Citation. C'est assez fréquent, malheureusement, qu'on reçoive des appels de personnes proches aidantes qui ont atteint la fin de leurs prestations. Fin de citation, dit-il. Dans tous les cas, il est obligé de leur dire qu'il ne peut pas les aider parce que la loi est ainsi faite. Citation. On ne peut pas dire « Le gouvernement a pris une mauvaise décision dans votre dossier. On peut vous aider ou vous défendre en cour. » Malheureusement, on doit leur dire qu'ils ont fait le tour de ce qui est offert. Fin de citation. L'avocat plaide pour des prestations plus généreuses pour les proches aidants qui sont les parents pauvres de tous les programmes, selon lui. Citation. La solution au problème des milliers de Mme Henley de ce monde, parce qu'il y a beaucoup de proches aidants au Québec et ça va continuer d'augmenter, c'est une solution politique. Fin de citation. Il affirme être en discussion avec différents partis politiques fédéraux pour proposer des améliorations aux prestations destinées aux proches aidants. Et il n'est pas le seul. Le Centre canadien d'excellence pour les aidants fait des revendications dans le même sens. En février, l'organisme a présenté sa « Stratégie nationale pour la prestation de soins » qui propose notamment une prestation de 50 semaines facilement accessible pour tous les proches aidants qui en ont besoin. Citation. « Nos conversations avec le fédéral continuent et j'espère qu'ils vont voir la logique dans cette idée. » Fin de citation, affirme le directeur des politiques et des relations gouvernementales du Centre, James Janeiro. Un choix impossible. Selon le regroupement Proche Aidance Québec, près de 60 % des aidants naturels sont en emploi. Citation. Il y a des choses imprévues qui arrivent, ce qui fait que, malheureusement, les personnes proches aidantes se retrouvent à devoir faire un choix impossible, garder leurs proches à la maison et s'en occuper, mais tomber dans un risque de précarisation financière, ou placer leurs proches pour pouvoir poursuivre leur emploi. Fin de citation, déplore sa directrice générale, Lauriane Estienne. Même son de cloche à l'entraidant dans les Laurentides. Citation. La prestation contribue à appauvrir les personnes proches aidantes. Fin de citation, dénonce Julie Gravel, la directrice générale de l'organisme. Mais ce n'est pas le seul problème, dit-elle. Il faudrait que le programme soit plus flexible pour mieux répondre aux besoins des proches aidants selon leur situation unique. Citation. On pense que les prestations devraient être adaptées à la réalité des personnes proches aidantes. Fin de citation. Tous les intervenants rappellent à quel point le travail des proches aidants est nécessaire. Citation. Les personnes proches aidantes sont des piliers essentiels à la société, dans le sens où elles allègent le fardeau sur le réseau de la santé. Fin de citation, résume Mme Estienne. Citation. Offrir des services de soutien adéquats à une personne proche aidante pour lui permettre de travailler coûterait probablement beaucoup moins cher que d'hospitaliser le proche. Fin de citation. concilier travail et proche aidance. Au Québec, des mesures de conciliation travail-proche aidance sont reconnues par la loi. Les proches aidants ont droit à 2 jours de congé rémunéré et peuvent s'absenter jusqu'à 10 jours sans salaire sans que cela nuise à leur emploi. Mais lorsqu'ils doivent prendre un congé plus long, ils sont contraints de se tourner vers le programme d'assurance-emploi du gouvernement fédéral que plusieurs organismes trouvent trop peu généreux. Si Ottawa ne bonifie pas son programme, Québec pourrait prendre le relais comme il l'a fait dans les années 1990 avec le régime d'assurance parentale, estime l'avocat Gabriel Pelletier du Comité chômage de Montréal. Citation : Si l'État canadien n'est pas prêt à prendre ses responsabilités, ce sera au Québec de créer son propre régime. Fin de citation, dit-il. C'était « Les proches aidants coincés dans les limbes du système d'assurance-emploi », un texte de Jessica Nadeau, paru le 9 août 2025 dans Le Devoir.
Des hausses des droits de scolarité revues à la baisse dans plusieurs écoles privées, un texte de Zachary Goudreau, paru le 6 août 2025 dans Le Devoir. De nombreuses écoles privées du Québec envisagent de réduire la hausse des droits de scolarité qu'elles avaient initialement prévu imposer aux parents de leurs élèves à la suite de la décision du gouvernement Legault de limiter les restrictions budgétaires auxquelles elles font face, a appris Le Devoir. En juin dernier, les écoles privées apprenaient que Québec leur imposait des restrictions budgétaires s'élevant à 56,9 millions de dollars, soit l'équivalent d'environ 475 dollars de moins par élève, selon les calculs de la Fédération des établissements d'enseignement privé, FEEP. Afin d'éviter d'avoir à restreindre les services aux élèves, plusieurs établissements privés ont annoncé dès lors aux parents de leurs élèves qu'ils devront débourser, à partir de cet automne, quelques centaines de dollars de plus que prévu par enfant à titre de droit de scolarité. On avait demandé une contribution additionnelle aux parents de 250 dollars initialement, souligne ainsi Au Devoir le directeur général du Collège Bourget, situé à Rigaud, Philippe Bertrand. Ce dernier s'était toutefois engagé à revoir cette hausse des droits de scolarité à la baisse dans l'éventualité où Québec réviserait sa décision. Or, justement, devant la grogne populaire, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a fait volte-face à la mi-juillet en annonçant un réinvestissement de 540 millions dans l'ensemble du réseau scolaire. De ce montant, 29 millions sont destinés aux écoles privées. Celles-ci ont alors vu l'ampleur des restrictions budgétaires qui leur avaient été imposées le mois précédent être réduites de moitié. Résultat, Philippe Bertrand limitera à 125 $ par élève la hausse des droits de scolarité imposée par son établissement, confie-t-il. Un cas qui est loin d'être unique. La majorité des établissements, je vous dirais, vont revoir à la baisse la hausse des frais de scolarité, confirme le président de l'Association des directrices et directeurs généraux des établissements scolaires de l'enseignement privé du Québec, Éric Deguire. Les décisions prises en ce sens seront communiquées aux parents concernés d'ici 2 semaines, indique-t-il. On n'a pas encore décidé de combien, mais c'est sûr qu'on va diminuer l'augmentation aux parents, confirme lui aussi le président directeur général du Collège Sainte-Anne à Montréal, Hugo Cavenaghi, qui entend aborder cette option avec les membres de son conseil d'administration. Une incertitude demeure. Certains établissements avaient pour leur part décidé de ne pas augmenter les droits de scolarité de leurs élèves en juin dernier, malgré les restrictions budgétaires alors imposées par l'État. C'est le cas du Collège Charles Lemoyne, qui a plutôt mis des projets d'entretien et d'agrandissement sur pause et couper quelques postes qui étaient en affichage. Des décisions que l'établissement a décidé de maintenir pour l'instant. On a maintenu nos décisions dans l'attente de voir comment l'année scolaire va aller, puis au courant de l'année, si tout est positif, qu'il n'y a pas d'autres surprises, on va réinvestir à ce moment-là, évoque le directeur général de l'école privée de Longueuil et président de la FEEP, David Boyles. Ce dernier rappelle d'ailleurs que le récent réinvestissement fait par Québec n'a couvert qu'une partie des restrictions budgétaires initialement imposées aux écoles privées, dont la situation financière dépend par ailleurs du nombre d'élèves qui s'y inscrivent et y demeurent par la suite. Les répercussions du récent réinvestissement de Québec sur le recrutement d'employés par les écoles privées demeurent donc incertaines et varieront d'un établissement à l'autre, au cas par cas, entrevoit Éric de Guire. Ce dernier estime que certaines écoles décideront de procéder à des embauches dans les prochaines semaines, tandis que d'autres préféreront faire preuve de prudence. On va attendre quelques mois, le temps de connaître vraiment les balises du ministère, relève Patricia Steben, la directrice générale du Collège de Montréal, qui ignore pour l'instant si elle sera en mesure de reprendre certaines embauches qu'elle avait dû mettre sur pause en raison des restrictions budgétaires imposées par l'État. Chose certaine, résume Éric de Guire, un gros défi attend les directions d'écoles privées dans les prochaines semaines. C'était des hausses des droits de scolarité revus à la baisse dans plusieurs écoles privées, un texte de Zachary Goudreau, paru le 6 août 2025 dans Le Devoir.
Une ressource mésadaptée ou la prison pour Erika. Un texte de Tommy Brochu, paru le 6 août 2025 dans La Tribune. Emprisonnée durant 6 jours, une jeune Estrienne atteinte d'une déficience intellectuelle légère et d'un trouble de la personnalité limite retournera dans une ressource qui ne lui convient pas. Quelle est la place de cette femme de 20 ans dans notre société? Se demande le système de justice, qui convient que la prison n'est pas une bonne réponse. La jeune femme qui est sous la tutelle du curateur public, puisqu'elle vit avec une déficience intellectuelle légère et un trouble de la personnalité limite, a été mise en état d'arrestation et emprisonnée récemment pour avoir frappé et menacé des intervenants qui travaillent auprès d'elle. Menottée, Erika, nom fictif, a pris place dans la salle 3 du palais de justice de Sherbrooke vendredi. Elle est confinée depuis 2 ans et demi avec des personnes qui vivent avec de lourdes déficiences et qui n'ont pas la capacité de parler. Ses seuls contacts sociaux sont ceux avec ses intervenants qui exercent une autorité sur elle. Gestes violents. Ses premiers gestes ont eu lieu le 27 janvier dernier. La situation a ensuite dégénéré. 4 fois, elle a récidivé, dont 3 fois au mois de mai. Malheureusement, elle s'est désorganisée lors de la dernière fin de semaine du mois de juillet, a rapporté la procureure aux poursuites criminelles et pénales, maître Corinne Bolduc. « J'ai outrepassé mes fonctions », a-t-elle assuré à la juge. La problématique, c'est qu'il n'y a pas de ressources. Erika est littéralement prise dans une ressource avec des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, alors que son besoin est en santé mentale. Je ne pense pas que sa place soit en détention. Cependant, je dois m'assurer de la protection des personnes victimes et de la société, dit maître Corinne Bolduc. Mais quelle est sa place dans notre système? On dirait qu'on peut répondre à l'un et à l'autre des problèmes, mais jamais les deux en même temps, a analysé son avocat, maître Jonathan Poirier, de l'aide juridique. Le CIUS de l'Estrie CHUS, qui gère la ressource où vit Erika, a refusé la demande d'entrevue de la Tribune pour des raisons de confidentialité et par respect pour le processus judiciaire en cours. Erika a été détenue 6 jours au total à Laval. « Ça m'a remis en question. Je ne veux de mal à personne », a déclaré la jeune femme. 8 rencontres. Selon l'avocat de la défense, le CIUS a tenu 8 rencontres et il n'a toujours pas trouvé de solution, s'insurge-t-il. La jeune femme est d'ailleurs encadrée par une infirmière clinicienne pour l'aider à gérer ses émotions et la tolérance à la détresse. Une gestionnaire de la ressource où est hébergée Erika a pris la barre des témoins. Selon elle, la jeune femme n'a pas de discussion avec les autres usagers de son milieu, puisque la plupart ne parlent pas. Contrairement à Erika, les autres usagers n'iront jamais en appartement, décrit-elle. Ils n'apprennent pas à faire le lavage et n'ont pas accès à la cuisine. Ils n'ont vraiment pas le même niveau d'autonomie. La gestionnaire sent toutefois une volonté de fournir tous les scénarios possibles en termes d'hébergement. La direction devra se positionner sur un scénario qui sera retenu ou pas, croit-elle. C'est une situation très complexe, ajoute-t-elle. J'ai rarement vu ça. Selon mon expérience, ça peut prendre des mois. Je ne sais pas. Je sens une volonté des directions qui se sont mobilisées. Je sais que ça ne sera pas du court terme. Intervenir avec quelqu'un avec une déficience intellectuelle sévère ou avec quelqu'un qui a le profil d'Erika, c'est deux mondes. Dans un sens, ça retarde sa réadaptation, dit la gestionnaire du CIUS. La gestionnaire est au courant qu'Erika récidivera. Ce n'est pas facile pour le personnel, qui se sent impuissant. Certains membres du personnel portent plainte, d'autres non. Il pourrait y avoir 3 fois plus d'accusations, assure-t-elle. Vendredi dernier, la juge Hélène Fabi de la Cour du Québec a accepté de retourner Erika dans sa ressource. Oui, il y a un risque, mais il est assumable. Tu t'engages envers moi à réagir autrement lorsque tu vis des frustrations, a-t-elle estimé. Je pense que tes éducateurs peuvent être tes alliés et t'aider. Ils peuvent dire que tu seras capable de t'en sortir, de comprendre que ce n'est pas facile, mais de voir le cheminement. Ces personnes veulent t'aider, ils ne veulent pas te nuire, a analysé la juge pendant qu'Erika versait des larmes dans la boîte des accusés. En attendant, Erika devra revenir en cours le 4 septembre. C'était « Une ressource mésadaptée ou la prison pour Erika ». Un texte de Tommy Brochu paru le 6 août 2025 dans la Tribune.